Il y a 3 semaines, le culte était conduit par le groupe de Maison de Seloncourt et le thème choisi était l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour Dieu. Eh bien, je vous propose de continuer sur ce thème de l'amour, mais cette fois en posant une question. Qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Alors cette question vous semble peut-être incongrue, mais on utilise ce verbe dans tellement de situations et parfois pour exprimer des choses tellement différentes que je trouve que finalement cette question est légitime. Toute personne qui a déjà surfé sur Internet, sur toutes sortes de sites, même les sites chrétiens, vous avez dû voir que vous étiez invité à mettre des j'aime. Des j'aime pour approuver un contenu. Et certaines personnes redoublent de dextérité pour apposer d'un coup de pouce un j'aime sur tout et sur n'importe quoi. Il faut reconnaître que même dans la vie de tous les jours, nous utilisons ce verbe « aimer » pour exprimer des sentiments profonds envers des êtres chers, mais aussi pour qualifier les plats qui nous font saliver, pour toutes sortes de choses. Nous désignons un vêtement par ce même verbe, ou simplement un moment de confort. Alors évidemment, nous avons des dictionnaires pour nous donner la définition et le sens des mots. Et pour ce verbe aimer, il existe non pas une définition, mais une multitude de définitions pour le qualifier. Il y a évidemment aussi ce qu'en dit la Bible. Mais ce qui est important, c'est pas ce que disent les dictionnaires ou ce qu'en dit la Bible, mais c'est ce que ça porte dans notre cœur. Qu'est-ce que c'est pour nous aimer ? Pour les dictionnaires, aimer, c'est éprouver de l'affection, de l'amitié ou de la sympathie pour quelqu'un. Aimer, c'est éprouver de l'amour, de la passion. Aimer, c'est avoir du goût pour quelque chose. Aimer, c'est apprécier, être friand, c'est trouver quelque chose d'agréable, c'est être contenté, c'est se plaire à un endroit ou dans une situation. Aimer, c'est être attaché, c'est chérir, c'est avoir de la tendresse, c'est raffoler de quelque chose. Les dictionnaires sont très prolifiques sur ce verbe aimer. Et ils n'oublient pas non plus de nous parler de cette notion de faire l'amour comme si l'amour pouvait se fabriquer. Finalement, ce verbe auquel on donne plein de sens différents, plein de nuances, il n'a pas de vrai synonyme. Il a d'autre part quelque chose qui lui est propre. C'est que si on lui ajoute un adverbe censé augmenter sa valeur, on a le sentiment qu'il est amoindri. Alors, je m'explique. Si vous dites « cette pièce est bien propre », c'est plus fort que dire « cette pièce est propre ». Ou si vous dites « j'ai bien mangé », c'est plus fort que dire « j'ai mangé ». Mais si vous dites à votre conjoint « je t'aime », c'est plus fort que de lui dire « je t'aime bien ». En ajoutant « bien », on quantifie l'amour. Et en le quantifiant, on l'amoindrit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique au verbe aimer. Alors, il y a évidemment plein de choses justes dans les définitions que j'ai données du dictionnaire tout à l'heure. Mais on se rend compte qu'en réalité, le sens du verbe aimer, il dépend de 2 éléments principaux. Premièrement, de la chose ou de la personne aimée, et deuxièmement, de la personne qui aime. C'est pour cela que si vous me demandez ce que ça veut dire pour moi aimer, je vous dirai aimer quoi ? Aimer qui ? Et c'est seulement en fonction de votre réponse que je pourrai vous donner la mienne. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler de vos plats préférés, ni des loisirs qui vous branchent, mais plutôt de ce que répondait Jésus aux pharisiens qui lui demandaient quel est le plus grand commandement. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 39, « Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, et ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Dans ce texte, il s'agit donc d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et Jésus affirme que ces deux choses sont semblables. Il les met en quelque sorte sur un pied d'égalité. On trouve cette même idée dans la première lettre de Jean au chapitre 4. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On voit que Jésus, dans ses phrases, rappelle également que c'est un commandement. Et Jean le confirme dans ce que nous venons de lire. Est-ce qu'on peut aimer sur commande ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je peux dire « j'aime Dieu » puisque la Bible me le demande. Ou si je vous dis ce matin, frères et sœurs, je vous aime. D'ailleurs, je suis bien obligé, c'est la Bible qui me le demande. Est-ce que vous croirez à cet amour-là ? Pourtant, quand Jésus a répondu aux pharisiens, il n'a pas inventé un commandement. Il cite bien le texte du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 6. Écoute Israël, Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et je vais compléter avec la traduction donnée par Chouraki, qui me semble apporter quelque chose de plus. Entends Israël, Yahvé Adonai, notre Elohim, Yahvé Adonai 1, et tu aimeras Yahvé Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intensité. Cette première parole du Décalogue, c'est donc une exigence de Dieu. Et cette exigence est tout à fait logique. Le Décalogue, c'est l'ensemble des paroles qui posent les bases de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et Dieu fait une alliance d'amour avec son peuple. Dieu ne fait pas un mariage de raison avec Israël, et il ne fait pas un mariage de raison avec nous non plus. Comment cette alliance pourrait-elle se faire s'il n'y a pas un amour réciproque ? Dieu nous offre son amour, et je n'ai pas besoin de vous rappeler comment il l'a démontré. Et logiquement, il attend de nous une réponse d'amour, sinon il ne peut pas y avoir d'alliance. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce que veut dire pour moi pour vous, aimez Dieu. Dieu nous donne un cheminement au travers de ce commandement. parce qu'il nous parle d'abord du cœur. Évidemment, pas du muscle cardiaque, mais de ce qu'il y a de plus profond en nous, de ce qui porte en nous les sentiments de notre être. Ce commandement ne s'adresse donc pas à notre volonté. Nous ne pouvons pas aimer Dieu s'il n'a pas touché notre cœur. Lorsque j'ai désiré faire alliance avec mon épouse, ce n'était pas suite à un raisonnement intellectuel en ayant pesé les avantages et les inconvénients. Nous nous sommes mariés parce que nous avions envie de partager notre vie. Pendant notre période de fiançailles, je vous fais même une confidence, il m'est arrivé de sauter un repas de midi pour la rejoindre en vélo à la sortie de son travail, et ce n'était pas parce qu'elle me l'avait demandé, ce n'était pas non plus parce que c'était raisonnable, c'était simplement parce que j'avais envie d'être auprès d'elle. J'avais envie de partager le plus de temps possible avec elle. Eh bien, c'est ce type de rapport que Dieu veut avec son peuple. Aimer Dieu, ce n'est pas répéter « j'aime Dieu sur tous les tons ». Aimer Dieu, c'est se plaire en sa présence, c'est savourer les moments d'intimité et de communion avec lui, c'est avoir envie de partager chaque instant avec lui, pas seulement à l'église ou dans les moments de prière, mais à chaque instant. Quand on se trouve en pleine nature, devant un paysage magnifique ou devant un beau coucher de soleil, on ressent la présence de Dieu. On a envie de le louer. On n'a même pas de mots pour le faire. Après avoir mentionné le cœur, la plupart des traductions mentionnent l'âme, comme la traduction second que nous avons affichée. Chouraki, lui, il interprète de tout ton être. Parce que Dieu nous veut tout entier. Corps, âme et esprit. Il veut qu'il y ait une symétrie entre son amour pour nous et notre amour pour lui. Et le début du commandement est important. On lit dans la traduction Chouraki, « Adonai, notre Elohim, Yahvé Adonai, un. » Alors Adonai, c'est Seigneur, Elohim, c'est Dieu au pluriel, et Yahvé Adonai, un, c'est éternel, donc « je suis » en réalité, « un ». Cet amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, tous trois étant une seule personne. Et nous-mêmes, nous sommes un être trinitaire, corps, âme, esprit, et nous sommes une seule personne. Et nous avons cette unité, eh bien Dieu la veut aussi dans l'amour. Il veut que notre être tout entier l'aime. Nous avons différentes façons de montrer notre amour pour Dieu. Bien sûr dans la prière, dans la louange, comme nous avons chanté tout à l'heure, mais aussi de bien d'autres façons. Mais si nos bouches ne sont pas en accord avec nos pensées, nous n'aurons pas même bonheur à le louer. Et même notre louange ne sera pas vraie. David, il dansait devant l'arche de l'Alliance parce qu'il ne pouvait pas se retenir. Il voulait que son corps exprime ce qu'il ressentait dans le cœur. Et son épouse Michal l'a méprisé pour cela. Pourtant, c'est dans cette attitude-là que Dieu l'aimait et que David était un homme selon le cœur de Dieu, comme ça nous est dit dans la Bible. Si nous louons Dieu en pensant à ce que nous allons manger à midi, je pense que notre louange ne sera pas vraie. Elle ne sera pas en tout cas entière. Ne nous étonnons pas de ne pas ressentir la présence de Dieu à sa pleine mesure si nos pensées ne sont pas coordonnées à nos paroles. Quelquefois, notre retenue peut nous prouver d'un plein épanouissement spirituel. On peut quelquefois demander à Dieu, je voudrais avoir plus de communion avec toi, avec une communion plus intense, plus ressentir ta présence dans mon cœur, plus exprimer ce que j'ai dans le cœur, tout en retenant quelque part notre être, en n'exprimant pas, en ayant des paroles et en retenant notre corps, en refusant d'exprimer avec notre corps l'élan que nous avons dans le cœur. David ne se retenait pas. Il dansait devant l'Éternel. Nous avons besoin d'être un, que notre être tout entier soit en cohérence. Jésus, dans sa montée vers Jérusalem, le jour des rameaux, disait aux pharisiens qui voulaient empêcher la foule de crier, il disait, s'ils se taisent, les pierres crieront. Eh bien, ne laissons pas les pierres crier à notre place. Crions notre amour pour le Seigneur. Vivons notre amour pour le Seigneur. Et peu importe si notre élan amoureux n'est pas du goût de ceux qui nous entourent. Le premier commandement, cité par Jésus, résumait les trois premières paroles du Décalogue. Le deuxième commandement, cité par Jésus, est en quelque sorte le résumé des six dernières. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, résume bien, honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas dérober, ne pas faire de faux témoignages, ne pas convoiter. J'expliquais dans la première partie que pour connaître le sens qu'on donne au verbe aimer, il faut savoir ce qu'on aime ou qui on aime. Dans ce cas-là, Jésus parle du prochain. Alors on peut comprendre qu'il s'agit de la personne qui est proche de celui que l'on côtoie. Jésus a expliqué qu'il nous devions considérer comme notre prochain. Il l'a expliqué avec la parabole de ce qu'on appelle le bon samaritain. Notre prochain, c'est toute personne que Dieu met sur notre route. Nous devons aimer évidemment notre famille, nos amis, nos frères et sœurs dans la foi, bien sûr. Nos voisins, notre boulanger, notre coiffeur, mais aussi le SDF qui est tendu dans la rue piétonne, ou celui qui nous claque la porte au nez sur le magasin, ou qui nous fait une queue de poisson sur la route. Jésus, il nous dit même dans le sermon sur la montagne, aimez vos ennemis. Quel programme! Est-ce que ça veut dire que l'amour que nous avons pour notre conjoint est identique à celui que nous avons pour le SDF dans la rue de Montbéliard? Qu'est-ce que l'amour que nous avons, qu'est-ce que l'amour que nous exprimons? Est-ce que nous aimons nos enfants de la même manière que nous aimons nos ennemis? Je me permets de nuancer cela en revenant à ce que j'ai exprimé dans la première partie. Pour qualifier ce que veut dire pour moi aimer, il faut me dire qui ou quoi j'aime. À mon sens, le seul point commun de l'amour que je porte à toutes les personnes que j'ai mentionnées, c'est que je désire pour toutes qu'elles s'approchent de Dieu. Je veux aimer ceux qui se considèrent comme mes ennemis dans le sens où je désire qu'ils accèdent au salut, qu'ils acceptent la grâce de Dieu en passant par la repentance. J'avais été impressionné il y a quelques années par un couple de chrétiens catholiques qui, en parlant de l'assassin de leur fils, disait « Nous prions pour que cet homme se repente et qu'il découvre la grâce de Dieu. » Le salut, la grâce de Dieu, c'est vraiment le meilleur souhait que l'on peut faire à quelqu'un. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous invite à partager avec notre prochain. Aimer l'autre comme moi-même, c'est avoir le souhait, le désir de salut pour l'autre comme je l'ai pour moi. Vous connaissez tous ce verset de Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Eh bien, nous sommes appelés à désirer ce royaume de Dieu pour notre prochain, comme nous le désirons pour nous-mêmes, pour tous nos prochains, même ceux qui se considèrent comme nos adversaires. Voilà le défi que Dieu nous donne, mais il nous donne aussi les moyens de le faire. Et j'aimerais terminer cette prédication par un poème qui illustre ce sujet. Facile à dire « je t'aime » si ce ne sont que des mots. Facile à dire si même on se sait en défaut. Ça n'engage que l'instant, comme tout verbe au présent. Ça n'implique ni le passé et pas plus l'avenir. C'est dit et puis ça tombe, sans rien de plus laisser. Aimer, ce n'est pas dire. Aimer, c'est le montrer. C'est quand tout prêt à fuir se plaire à bien rester. Aimer, c'est regarder quand d'autres se détournent. Aimer, c'est oser dire quand d'autres veulent se taire. C'est rester silencieux quand tout se vocifère. Aimer, c'est un sourire, un regard, un clin d'œil. Aimer, c'est supporter quand l'autre défaille. Aimer, c'est entourer du bras ou du conseil. C'est même s'en aller pour rendre l'autre fort. Aimer ne s'explique pas parce que aimer s'applique. Ce verbe sans synonyme, comment vous l'expliquez? Peut-être en vous aimant. Alors vous le verrez quand je serai près de vous, dans mes regards, mes signes, mes clins d'œil, mes sourires, quand j'oserai tout dire, ou peut-être me taire. Par mon bras, mon conseil, par des moments de veille, peut-être par ma présence ou même mon absence, mais saurais-je le faire? Pourrais-je le montrer? Saurais-je vous aimer? Alors pourquoi me taire? Il faudra bien le dire si je ne sais pas le montrer. Facile à dire je t'aime, mais il reste un exemple d'un amour démontré. Quelqu'un qui pourrait aimer s'est abaissé vers nous, celui qui a payé ce que nous devions nous. Ce qui m'est impossible, il l'a réalisé. Il me rend accessible toute l'éternité. Si fort est son amour que nos cœurs transformés peuvent aimer à leur tour. Facile à dire je t'aime, Jésus m'a tant aimé. En conclusion, je vous propose deux raccourcis. Aimer Dieu égale désirer être proche de lui. Aimer son prochain égale désirer qu'il soit sauvé. Si on arrive à ça, je pense que c'est déjà une bonne notion de l'amour. Merci Seigneur, parce que par ton amour, tu m'as aidé à aimer. Parce que par ton amour, tu as rendu possible mon amour. Merci Seigneur, parce que tu as tout accompli. Amen.